rivière à ferraille.
Vous écoutez Rage, et c'est l'heure d'Exocet, l'émission que les fantômes écoutent pour se faire peur. Ce soir, dans Exocet, on vous a préparé une sélection.
Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
Bonsoir, bienvenue dans le bureau des mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles. Et premièrement, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2019. 2019 qui commence d'ailleurs pour nous avec un numéro un petit peu spécial. Ce soir, dans le bureau des mystères, pas d'histoire. Nous sommes actuellement avec Mathias, mais pas que, dans un studio au Pontet, près d'Avignon. Et nous ne sommes pas tout seuls, puisque nous sommes accompagnés de l'équipe d'Exocet, Patrick Beau et Thomas Brie. Bonjour à vous, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien.
Bonjour, oui, pareil, très très bien.
Exocet, on a les deux tiers de l'équipe d'Exocet, on vous expliquera après pourquoi. Exocet, c'était une émission, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, une émission radio hebdomadaire entre 2005 et 2008, je dis pas de bêtises.
C'est ça.
2005 et 2008, ouais. Diffusée sur Rage, une radio locale, donc radio locale du sud-est de la France, près d'Avignon. Et c'est une des inspirations pour le Bureau des Mystères, surtout pour Mathias, qui me parle de l'émission depuis très longtemps. Mathias, est-ce que tu veux nous raconter comment c'est moi qui fait cet épisode ?
C'est vrai que c'est moi qui t'ai fait découvrir Exocet, tu ne connaissais pas avant. Moi, c'est une de mes inspirations, et c'est pour ça que je suis très heureux de vous recevoir tous les deux. Moi, j'ai découvert d'abord par Axolot, puisque j'ai découvert avec la chaîne YouTube de Patrick. Et ensuite, voilà, une bonne partie des archives d'Exocet sont disponibles sur le site d'Axolot. C'est comme ça que je me suis intéressé à l'émission, et quand on a démarré le Bureau des Mystères, le concept se rapproche assez d'Exocet. Donc j'étais très content de pouvoir essayer d'amener un petit peu cet esprit-là dans cette émission. Vous aviez un œil un petit peu sceptique qui me plaisait beaucoup, et surtout ce goût des histoires mystérieuses. Malheureusement, nous n'avons pas la troisième partie du trio ce soir, Mika, mais je suis allé le voir, vous l'entendrez de temps en temps dans l'émission, et il avait un petit message pour vous qu'on va écouter tout de suite.
Bon, salut les copains. Bah écoutez, je suis vraiment désolé de pas pouvoir être là, mais vous savez, hein, mon temps est précieux. J'ai été appelé à des trucs plus importants pour l'État. Je peux pas en parler. Vous êtes au courant de mes missions un peu spéciales. Enfin, on va pas s'étendre sur ce podcast. En plus, je crois qu'il est un peu écouté. Enfin, voilà, on n'en parle pas, on dit pas. Mais vous savez que c'est assez important. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je serai quand même avec vous pendant toute l'émission. Bon, je suis pas à la réalisation. J'espère que ça va bien se passer. Qu'il y aura pas de trop de couacs techniques. En tout cas, ce n'est pas de mon fait pour cette fois-ci. Voilà, je serai un peu avec vous. Vous allez m'entendre pendant l'émission. J'ai réagi sur des trucs. On m'a dit de pas dire des trucs. Il y a des trucs un peu classés confidentiels. Je n'ai pas le droit d'en parler non plus. Mais en tout cas, voilà, je serai là. Je serai avec vous. Voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, les amis. Et Patrick, t'as oublié une paire de chaussettes à la maison. Faut que tu viennes la récupérer.
Voilà, le petit message de Mika, j'espère que ça vous a fait plaisir de l'écouter.
Toujours.
Ben c'est assez émouvant, parce qu'en fait, je crois que depuis la fin de l'émission, on ne s'est jamais retrouvés tous les trois, vraiment.
Les trois, non. Non.
Je crois que c'est jamais arrivé, je pensais que ça arriverait là, mais du coup non, donc il y a vraiment une malédiction, décidément, je sais pas si ça arrivera, j'espère. Donc du coup oui, c'est assez touchant d'entendre la voix de Mika, on aurait bien aimé l'avoir avec nous, et bon bah du coup s'il a des interventions régulières au fil du podcast, c'est cool, ce sera un peu comme ça.
Justement, quand je suis allé le voir, je lui ai demandé, la première question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce que ça représentait Exocet pour toi ? Donc il m'a redéfini l'émission comme on vient de le faire, mais il m'a dit que ce qui était très important pour lui, c'était que vous cherchiez à avoir un esprit cartésien, à avoir vraiment les pieds sur terre quand vous racontiez les histoires. J'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus là-dessus. Vous n'avez jamais voulu céder dans le mystère facile. Il fallait toujours qu'il y ait une explication derrière.
Alors, personnellement, en fait, dans cette émission, chaque semaine, on essayait de surprendre les gens, de partager les histoires qui nous étonnaient, qui nous émerveillaient. Mais comme il fallait en faire une chaque semaine et que pour chaque émission, il fallait qu'on raconte trois ou quatre histoires, bon, on était pas forcément regardant sur l'authenticité des faits, ce qui fait que pour compenser ça, on appuyait le côté sceptique, on démystifiait les histoires qu'on racontait nous-mêmes. Et en fait, en ce qui me concerne, par la suite, donc, quand j'ai fait Axolot, j'ai gardé uniquement l'aspect réel de ces histoires-là, parce que après 3 ans d'émission, j'avais fini par me forger vraiment un esprit critique en béton armé, puisque à force de raconter des histoires chaque semaine et d'essayer de se renseigner, on finit par s'apercevoir que dans la très très grande majorité des cas, on a des explications rationnelles qui ont trait à la psychologie, qui ont trait à des erreurs de perception, à des faux souvenirs, etc.
Ça t'est venu avec l'émission, justement, avec Exocet, cet esprit critique-là?
Alors, disons que j'ai toujours eu l'esprit critique, mais en fait, en racontant des histoires dites paranormales, dites surnaturelles chaque semaine, on finit par retrouver quasi systématiquement des schémas similaires. On se dit, ah oui, d'accord, c'est un peu comme pour telle histoire, c'est du bouche à oreille, c'est des rumeurs qui ont été déformées, c'est des erreurs de perception, c'est des faux souvenirs, c'est ci, c'est là. Et puis, à force, on finit par développer un scepticisme à toute épreuve, puisque quand on entend parler d'une histoire qui se rapproche d'un des récits qu'on a pu raconter à l'antenne, on se dit, ah oui, d'accord, ça doit sûrement être comme là ou comme là. C'est valable pour le paranormal, comme pour les observations d'ovnis. Généralement, on peut assez facilement placer les récits dans certaines catégories en se disant, ah oui, d'accord, là, je vois exactement ce qui a dû se passer, etc. Ce qui fait que c'est assez blasant au fil du compte. Mais du coup, avec le temps, je me suis d'autant plus intéressé aux faits réels parce que, pour le coup, on peut s'en émerveiller à juste titre, à bon escient. Et en fait, quand on raconte une histoire paranormale, histoire de fantômes, etc., ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment excitant, c'est de se dire que, ah, c'est peut-être vrai. Alors, tant qu'à faire, autant aller chercher directement des histoires vraies dont on est sûr qu'on peut s'étonner pour de bon, plutôt que de raconter des histoires dont on n'est pas certain qu'elles soient vraies. Et en fait, si on dépouille par exemple une maison hantée de sa légende, ben, il ne reste plus qu'une ruine, finalement. Et ce n'est pas forcément passionnant. Donc avec Axolot, ce que j'ai essayé de faire vraiment, c'était de me concentrer sur les histoires dont j'étais sûr qu'elles étaient vraies. Et très souvent, bah, je me suis aperçu que la réalité peut aller encore beaucoup plus loin que des récits imaginaires, que des histoires surnaturelles, parce qu'il n'y a que la réalité qui peut s'émanciper du réalisme. Quand on raconte une histoire, ou dans un film, ou dans un bouquin, les scénaristes s'efforcent d'être plausibles. Il n'y a que la réalité qui peut éviter d'être réaliste, puisque elle est la réalité. Donc voilà.
Alors moi, je rejoins plutôt Patrick sur son analyse, avec une légère différence, c'est que moi, j'ai toujours une passion pour ce qu'on appelle maintenant le débunkage, hein, pour prendre un terme à la mode, et que je trouve un vrai intérêt justement à... alors maintenant, je raconte plus d'histoires, mais à écouter des histoires dont je sais pertinemment que la véracité est plus qu'improbable, et derrière, justement, rechercher un petit peu la petite bête, le petit détail, la chose qui fait que je vais pouvoir rebondir dessus et me l'accaparer d'une manière différente. Et je trouve qu'il y a un travail un peu de police ou d'enquête autour, justement, de tout ce qui va toucher aux histoires surnaturelles, paranormales, ovnis, enfin, il y en a des milliers, mais qu'on va pouvoir comme ça aller un peu creuser et aller à la recherche de la vérité. Et cette seconde phase me plaît quasiment autant que l'histoire en elle-même, parce que, en fait, j'ai une passion pour les histoires en tant que telles, surtout quand elles sont paranormales. Moi, j'adore frissonner au coin du feu. Voilà, j'étais un grand fan de ça. Le cliché du scout que je n'étais pas, mais au coin du feu, qui raconte des histoires à se faire peur, ça me correspond carrément. Donc, j'adore vraiment ça. J'ai toujours été passionné par les ovnis, ce genre de choses. Mais effectivement, j'aime tout autant le travail d'enquête qu'il peut y avoir autour pour essayer de démystifier, pour essayer de décrypter. Et effectivement, très souvent, il y a les causes des mystifications et des légendes sont quasiment aussi intéressantes que les légendes elles-mêmes, surtout quand on touche à des ressorts qui vont avoir attrait au psychologique, au comportement humain. Voilà, tous ces détails-là ont pour moi quelque chose de très intéressant. Donc, c'est en fait conjugué très naturellement qu'on a quand même fait une émission finalement assez critique, parce que ce qu'on aimait, c'était les histoires en tant que telles. Et puis derrière, on ne souhaitait pas particulièrement participer à la création du mythe, mais juste s'en inspirer et puis le raconter.
Et pour rebondir sur ce que dit Thomas, parfois, il y a des histoires qui sont connues pour leur dimension extraordinaire ou surnaturelle, etc. Et on s'aperçoit en creusant un petit peu qu'en fait, ce qui est réellement intéressant là-dedans, c'est ce que ça nous dit des humains, c'est ce que ça nous dit de la réalité. Par exemple, je prends le cas du couple Hill, Barney et Betty Hill, qui est donc un des cas fondateurs de toute la mythologie abductionniste, hein, donc les gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Donc, on a une histoire qui se présente comme une histoire d'enlèvement. Donc ça, c'est l'aspect extraordinaire et surnaturel, etc. Donc moi, personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ces gens aient été enlevés par des extraterrestres. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que ces gens, jusqu'à la fin de leur vie, ont maintenu ce récit hallucinant, qui était identique pour les deux. En plus, même quand ils étaient interrogés séparément. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des mécanismes psychologiques qui peuvent expliquer ça. Et pour le coup, ça me semble aussi intéressant, si ce n'est plus, de voir comment est-ce que le cerveau peut nous pousser à imaginer des récits aussi hallucinants que ça. Donc finalement, voilà, quel que soit
mais même déjà sur des choses... on va pas faire trois quarts d'heure sur cette thématique, mais même déjà sur des sujets très, très basiques, très, très simples, comme les légendes urbaines. Moi, je suis toujours stupéfait d'entendre des gens qui vont me raconter des histoires que j'ai entendues 50 000 fois, que j'ai racontées parfois à Exocet, que j'ai racontées en dehors à des amis, etc. Et me les ressortir, sauf que les prénoms changent, que c'est leur cousin.
C'est leur cousin,
qui
exactement.
Non, mais voilà, c'est leur cousin. Je trouve ça tellement génial, ce ressort psychologique humain qui fait qu'il a envie de s'accaparer cette histoire, qui pense qu'il va donner un crédit à l'histoire en le personnifiant finalement et en mettant, oui, non, mais je te promets, attends, c'est ma sœur, elle peut pas. T'interroges la sœur d'ailleurs, généralement, elle fait, non, moi je n'étais pas au courant de l'histoire, mais c'est super intéressant. Donc voilà, c'est vrai que on aime toujours ça et que finalement, ouais, c'est assez naturellement qu'on a quand même fait une émission dite paranormale. Ça allait bien plus loin que ça, nos thématiques, on va dire étranges et décalées. Mais sans jamais tomber non plus dans le travers, sauf quelques erreurs de parcours.
Il y en a eu. Moi, j'assume pas tout.
Moi non plus. Mais il y avait la jeunesse. Mais il y en a une qui est assez lourde. Je ne sais pas si c'est la peine de la remettre sur le devant de la scène, mais il y en a eu quelques-unes.
Bah, en fait. Le truc, c'est que...
Si tu veux l'aborder, vas-y. Hein.
Étant donné que les émissions sont écoutables sur Internet, c'est devenu intemporel. Il y a des gens, parfois, qui me parlent de certaines émissions comme si je les avais enregistrées la semaine dernière, en me disant « Ah oui, mais quand t'as dit ça, j'ai dit, mec, c'était il y a 10 ans, je sais même plus ce que j'ai dit. » Et en plus de ça, en 10 ans, tu évolues, tu changes d'avis, tu fais pas les mêmes erreurs. Donc, il y a des trucs qu'on a pu dire à l'époque, que j'ai pu dire à l'époque, que je ne pense plus aujourd'hui, forcément. Mais malheureusement, on sait que sur Internet, rien ne disparaît. Donc, il y a sans doute des choses qu'on ressortira encore pendant 20 ans. Et je peux pas y faire grand-chose, parce qu'il y a des émissions qui ont été dupliquées, qui ont été copiées, qui ont été diffusées sur des sur YouTube. Donc il y a des choses, moi, que j'ai enlevées.
On ne maîtrise même plus, en plus. Ouais.
Ah oui, vraiment pas. Il y a des choses que j'ai enlevées de mes archives, mais qui sont à tout jamais sur Internet. Et bah, c'est le propre du net, quoi. On sait très bien que si on dit une connerie ou si on fait une connerie, bah, c'est terminé. Et c'est encore pire si on essaie de l'effacer ou de l'étouffer, hein, en vertu du principe de Barbara Streisand, quoi. On essaie sur Internet d'étouffer quelque chose, on sait très bien que ça va être pire. Donc,
oui,
bah
là,
ça va
être un complot.
Oui, voilà. Ouais.
Ça va être un complot des reptiliens.
Donc, il faut juste assumer qu'on peut dire des conneries et que, heureusement, on grandit et, que, voilà. Et qu'on évolue, quoi.
Bah, après, si tu veux un exemple précis comme ça, tu vois, ça va me permettre d'exorciser ça. Moi,
Allez.
Non, mais voilà. Alors, par exemple, le sujet sur le 11 septembre, qui était un sujet très intéressant, dans lequel on a dit des choses qui étaient intéressantes d'un point de vue de l'analyse, de l'histoire. Enfin, je trouve qu'on avait fait, pour l'époque, avec nos moyens et nos compétences de l'époque, plutôt une bonne émission. Qui manquait sincèrement, et c'est pas la seule, mais celle-là en particulier, qui manquait sincèrement d'esprit critique et de recul par rapport à la situation. Voilà, qui était beaucoup trop dans le sensationnalisme, dans l'émotion, dans des tas de choses qui faisait pas l'ADN pour moi d'Exocet en temps normal.
Absolument.
95% du temps, on versait pas dans ces travers-là. Et je prends cet exemple-là parce que il est marquant pour moi, je pense sûrement pour Patrick aussi, mais en tout cas, il est marquant pour moi comme, entre guillemets, une émission pas ratée parce qu'elle était, elle était de qualité, mais qui, où il n'y avait pas cette, cet ADN-là de la critique, même de l'autocritique. Et voilà, ça fait partie des petits regrets sur certaines émissions, mais comme disait Patrick, on avait aussi un âge différent.
Bien sûr.
Le sujet du 11 septembre, et ça faisait quasiment 15 ans, peut-être même plus.
Ben ouais, c'est en fait ce que j'allais dire, c'est est-ce que c'est pas lié au fait que l'événement dont vous parliez, justement, il y avait aussi peu de recul vis-à-vis de cet événement.
Alors,
parce que je me souviens très bien, en 2001 j'avais 10 ans, et en 2001 je me souviens très bien avoir entendu une quantité de théories du complot
bien sûr,
auxquelles j'ai cru bien sûr. Pendant toute mon adolescence.
Bien sûr, absolument. Et à l'époque, bon du coup quand on a fait cette émission, ça devait être en 2007, donc... 6 ans s'étaient déjà écoulés, ouais. Ce qui fait qu'on avait quand même un petit peu de recul, mais il n'empêche qu'à cette époque-là, il y avait encore énormément de théories conspirationnistes qui circulaient, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de questions, et quand on a fait cette émission, on avait vraiment plongé à pieds joints dedans, sans recul, et c'était une erreur totale.
Et c'était pas, évidemment pas les débuts d'Internet, parce qu'on a démarré Internet avec l'arrivée d'Infony pour les plus vieux de Club Internet. Donc on a démarré Internet très tôt, mais c'était, je dirais, quand même les débuts, en tout cas, de la professionnalisation de YouTube pour moi. C'est-à-dire qu'on commençait sur YouTube à avoir des vidéos, et notamment, par exemple, sur le 11 septembre, une vidéo qui s'appelait Loose Change, qui était super bien faite, ouais. Super bien montée, avec une réalisation juste impeccable. Et on était, nous, juste des esprits complètement vierges par rapport à ce type de médias, par rapport à ce type de contenu. Et on n'avait pas encore forgé notre esprit à avoir une critique. Et on se disait, mais attends, si le truc est aussi bien fait, limite, il aurait dû passer sur Arte. Et s'il n'est pas sur Arte, c'est qu'il y a un truc qu'on nous cache dedans. On n'arrivait pas à avoir le recul de se dire que des gens qui étaient trois dans une cuisine étaient capables de réaliser, d'un point de vue technique, hein, je parle, de réaliser un reportage aussi bien foutu qu'un truc qui passerait sur Planète. Ouais. Voilà. Donc forcément, quand on tombait sur ce type de sujet-là à ce moment-là, ben, on n'avait pas, ce regard et ce recul par rapport à ces vidéos très qualitatives qui changeaient du mec dans sa cuisine, qui nous racontait des salades avec une caméra qui tombait une fois sur deux. Voilà.
Et en plus, entre-temps, toutes les questions qui flottaient encore à l'époque... On trouvait des réponses depuis. Je pense par exemple à l'immeuble numéro 7, etc.
Bien sûr,
voilà. Séparément. Bon, à l'époque, il restait encore des zones d'ombre. Et du coup, toutes les théories conspirationnistes pouvaient s'y engouffrer dans ces brèches-là. Aujourd'hui, ça fait belle lurette que tout ça a été débunké et que la question ne se pose même plus. Mais du coup, forcément, quand on ressort une émission qui date d'il y a 10 ans, bah, on ne peut pas lutter. Quoi. Que dire à part, oui, non, mais c'était un ramassis de conneries, on est désolé. Mais... Et en plus, pour cette émission-là, on avait donné la parole à Jean-Pierre Petit, donc, qui était conspirationniste au maximum, et on ne lui a pas du tout opposé d'esprit critique, en fait. On lui a vraiment laissé une espèce de tribune, et c'était une erreur absolue que je vais regretter longtemps, je pense, parce que typiquement, sur cette question-là, c'est quelque chose qui ressurgit de temps à autre sur Twitter, des gens qui disent « Ah, regardez, Patrick Beau, machin, ce qu'il a dit. Ah, » C'était il y a 10 ans, vraiment, mais je peux rien faire d'autre à part de dire que c'était une erreur.
Et puis
que je le regrette.
Et puis de l'assumer. Et puis c'était, c'était notre passé. Et puis c'était une autre émission. C'était une autre époque. Et voilà. Je pense que malgré notre jeune âge, on avait quand même réussi à faire quelque chose qui tombait pas trop justement dans ces travers-là. Après, l'erreur est humaine.
Voilà, exactement.
Personnellement, pour en avoir écouté pas mal ces derniers temps, j'étais aussi impressionné quand même par le travail de recherche qui est fait de manière hebdomadaire pour des histoires où il y a aussi, c'est aussi ça, où il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui sur Internet. C'est-à-dire que vous faisiez des recherches, j'imagine aussi sur Internet, mais avec des ressources qui devaient être beaucoup moins importantes que ce qu'on a aujourd'hui pour le Bureau des Mystères.
Ah ben là, vu qu'il fallait alimenter chaque semaine, moi je sais, si l'émission s'est arrêtée, bon, il y a le fait qu'on a quitté la radio, mais on pensait vraiment que c'était terminé, qu'on ne pourrait pas faire une saison de plus, parce que toutes les sources disponibles, on les avait épuisées. Moi, j'ai toujours d'ailleurs une pile de bouquins phénoménale chez moi. Je lisais tout ce que je pouvais sur le sujet. Évidemment, Internet est une mine d'or, mais à l'époque, comme tu le dis, il y avait moins d'informations disponibles qu'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça demandait beaucoup de temps, beaucoup de recherche, cette émission.
Et après, c'est un choix de vie et de carrière, hein. effectivement, soit on y consacre encore beaucoup de temps et on fait le choix de Patrick, qui a un très beau choix et je suis très fier de ce qu'il fait aujourd'hui. Soit on fait mon choix, moins artistique, plus raisonnable, et on peut plus consacrer autant de temps à de la recherche de sujets, etc. Parce qu'on a une vie professionnelle qui n'est pas du tout concernée par ce type d'activité-là. Donc clairement, effectivement, une fois qu'on avait fait, ça nous demandait déjà à l'époque beaucoup de temps. On passait parfois des après-midi entières dans les rayons d'une célèbre librairie pour aller chercher des nouveaux bouquins, trouver des histoires. Enfin, voilà, on y consacrait beaucoup de temps. Ça va bien quand on est encore étudiant ou qu'on démarre dans la vie pro. Et à un moment, on est à temps plein et soit on en fait son métier, soit on peut plus vraiment non plus consacrer autant de temps que ça. Surtout que c'est du direct. Ça aurait été dans des conditions, je dirais, comme vous aujourd'hui, d'un podcast où on peut s'organiser. On se dit, écoute, là, vendredi, c'est pas possible. On décale à demain après-midi, ce qui doit sûrement vous arriver aussi pour des raisons perso, et c'est normal. Là, on n'avait pas le choix. L'émission, c'était à telle heure, c'était à 20h le vendredi.
Ouais.
À 20h le vendredi, il n'y avait pas de... je suis désolé, les gars, vous revenez demain, parce que là, j'ai pas eu le temps de préparer. Je vais aller à la FNAC demain après-midi pour trouver une histoire. Donc, voilà. Ouais. Ça a obligé une discipline de vie qui était difficilement compatible à mon niveau avec la vie que je menais.
Parce que c'est vrai qu'il faut préciser qu'à l'époque, voilà, la radio c'était un à côté pour nous, enfin, sauf pour Mika qui était employé de la radio, qui était technicien, mais on avait tous les deux nos propres métiers, nos propres vies. Moi j'étais graphiste à cette époque-là et la radio c'était un à côté, c'était une passion, mais on pouvait pas y consacrer tout notre temps. Et à l'époque, vraiment, je pensais qu'on pourrait pas faire de saison supplémentaire parce qu'on avait épuisé tous les sujets,
c'est clair.
Voilà, naïf que j'étais. Puis ensuite, quand c'est devenu mon métier, je me suis aperçu qu'il y avait de la marge, hein, puisque maintenant, ça va faire 10 ans que je fais ça, en fait, sur différents supports, je raconte des histoires. Mais forcément, quand on peut y consacrer tout son temps, c'est plus simple de trouver des histoires et des informations que quand c'est juste un à côté, une fois par semaine.
Parlant de Mika, d'ailleurs, quand je suis allé le voir à Paris pour préparer notre émission, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé avant que vous faisiez Exocet tous les trois. Parce qu'en fait, on entend, ceux qui ont commencé avec les archives qui sont sur le site d'Exocet le savent, à un moment, on dit que Thomas, tu viens d'arriver, que c'est ta première émission, mais qu'il y a eu des épisodes avant. Donc, je suis allé le voir et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait avant Exocet. Donc, on va écouter ce qu'il a à dire.
Alors ouais, il y a eu une première mouture d'Exocet avant que Thomas arrive. Donc Thomas est arrivé parce que c'était un peu lourd comme émission à créer pour Patrick, de trouver toutes ces histoires toutes les semaines tout seul. Et donc la première mouture d'Exocet, c'était un peu pareil, sauf qu'il y avait d'autres parties dans l'émission. Il y avait une deuxième partie où il parlait un peu d'infos insolites de mémoire. Et je sais même plus te dire si ça a duré une saison entière ou une demi-saison cette partie, mais c'est vrai qu'il y a eu une grande partie où on était que tous les deux avec Patrick, et c'était super cool parce que Patrick il a un truc vraiment propre à lui, c'est qu'il aime raconter des histoires, et le fait d'être avec lui dans les studios et qu'il raconte l'histoire pour les auditeurs, en fait j'avais l'impression qu'il l'a raconté à moi, quoi. C'est-à-dire que moi toutes les semaines je venais me prendre ma petite dose d'histoire par Patrick, en fait en privé, quoi. C'est un peu comme si j'allais voir un psy, sauf que c'est le psy qui parlait, qui me racontait des histoires, et moi je ressortais de ça, j'étais content, quoi. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui m'a plu dans Exocet. Après, quand Thomas est arrivé, écoute, c'était vraiment moins bien, quoi. Thomas est pas bon, il est pas sympa. Non, évidemment, quand Thomas est arrivé, c'était cool aussi. C'était même, l'émission a pris en grandeur, mais c'est vrai qu'on a eu cette petite parenthèse un peu privée entre Patrick et moi où on s'est découvert.
Alors, ça s'est fait en 3 étapes, ce truc-là, parce que moi, j'ai commencé la radio en 2001, à peu près. En réalité, j'ai fait de la radio par accident, comme beaucoup de gens, j'imagine, parce que j'étais à l'université d'Avignon, et j'étais en médiation culturelle, et on peut vraiment dire que je n'ai rien foutu cette année-là. La seule chose que m'a apporté l'université, c'est de rencontrer des gens qui m'ont conduit à faire de la radio. En fait, j'ai été invité un soir par des amis qui avaient une émission sur Rage, qui était à l'époque une radio étudiante, et qui est ensuite devenue donc une radio professionnelle, mais locale. Et aujourd'hui, donc, il y a des antennes, je crois qu'il y a une antenne à Paris, une antenne à Marseille, enfin, ça s'est développé comme ça. Mais en tout cas, quand moi j'ai commencé, c'était une radio étudiante. Et dès le moment où j'ai commencé à parler dans le micro, j'ai vraiment eu le coup de foudre, et j'y suis resté à peu près 7 ans. Donc j'ai été responsable des programmes de cette radio, en tant que bénévole, hein, puisque c'était une radio associative. J'ai eu plusieurs émissions et la première émission que j'ai faite s'appelait Exocet, mais c'était pas du tout la formule que vous connaissez là, puisque c'était une émission dans laquelle je mélangeais tout ce qui m'intéressait et j'étais totalement seul. C'est-à-dire que je faisais même la technique et il y avait même personne dans la radio d'ailleurs. C'était hebdomadaire. J'arrivais dans la radio, il y avait personne. Je me foutais derrière ma platine là et je faisais tout seul. Je mettais la musique, etc. Et pendant une heure, quand j'y repense, je me dis putain mais. C'était taré. Pendant une heure, je parlais tout seul, non-stop. Donc, je parlais de cinéma, je parlais de jeux vidéo, je parlais aussi de curiosité, etc. Mais c'était juste une partie. Et puis, quand je suis devenu responsable des programmes de cette radio, ça devait être en 2005, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé cette émission en plusieurs émissions et j'ai confié ces émissions à d'autres personnes. J'ai dit par exemple à des amis, bah tiens, est-ce que ça vous intéresse de faire l'émission cinéma? Donc ils ont fait le cinéma. À d'autres, bah vous, est-ce que vous voulez parler de jeux vidéo, etc., etc. Et finalement, j'ai gardé pour moi l'aspect curiosité, l'aspect histoire extraordinaire. Et donc là, on a commencé effectivement avec Mika, on était tous les deux, je racontais mes histoires et donc lui il racontait des blagues, il faisait la technique. Et après, donc au bout d'un an, Thomas est arrivé à la radio. Et puis,
vous aviez une émission ensemble d'ailleurs sur Rage en dehors d'Exocet.
Il y a eu Disque dur, mais ça c'était après.
Ben, je crois que tout s'est fait en parallèle. Donc, quand je suis arrivé.
En fait, quand tu es arrivé, t'as commencé arrivé, par la rédac.
Genre 15 jours. non mais si ça, ils m'ont envoyé faire un micro trottoir et je crois qu'ils ont dit c'est bon, on arrête. Et après, je t'ai croisé dans les couloirs et j'ai fait bon, moi ce que je veux faire c'est de la radio, les micro trottes, je m'en carre. Et il fallait que je tape les rédactionnels, machin, etc. Enfin bref, ça me saoulait. Enfin vraiment, moi je faisais de la radio. Alors pour l'anecdote, moi j'ai toujours été passionné de radio, mais c'est un truc que je suis toujours, et mon plus grand regret c'est de pas avoir un micro régulièrement. Je trouve que le média radio est le plus beau des médias. Je trouve ça super bien, les gens qui sont sur YouTube, ils font souvent pour la plupart un super boulot, mais moi vraiment c'est le média radio. Je trouve ça vraiment merveilleux, cette possibilité de s'adresser au plus grand nombre. Sans être forcément non plus mis en avant. Enfin, il y a voilà, ce côté très intime, etc. Enfin, donc, j'ai toujours été passionné de radio. Et donc, pour revenir sur l'anecdote, donc, j'étais au rédactionnel pendant 15 jours. Et en gros, j'ai croisé Patrick. Je lui ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'était derrière un micro, de parler. Je crois qu'il a dû me faire peut-être même pas d'ailleurs, il aurait dû 2-3 essais vite fait pour voir machin. Il a dit, bon, allez, ok, banco. Et je suis plutôt arrivé au départ. Et après ça a un peu évolué, mais comme chroniqueur dans la première émission qui était Mediatek. Oui, c'était Mediatek.
C'est ça, c'est ce que voilà. Disait Mika. Il m'a raconté là, après ce qui s'est passé.
Voilà, où là on s'est vraiment marré. Et ensuite, après on a continué notre collaboration avec Patrick et Michael sur les autres émissions. En fait, ça s'est fait un peu naturellement, l'évolution. Pourquoi s'arrêter à Mediatek? Et puis Mediatek a changé de formule, c'est devenu Disque dur, qui était une émission bien à part, sur laquelle on était aussi tous les trois. Dans un premier temps, après Michael avait plus le temps parce qu'il pouvait pas réaliser toutes nos émissions, il y avait d'autres animateurs hein, sur Rage, et il est resté plus que sur Exocet, et nous on avait en parallèle deux émissions par semaine finalement.
Ouais. Ce que disait Michael, c'est ce qui m'a fait marrer, il m'a raconté l'anecdote. Je savais pas que comment tu étais arrivé dans Exocet. Il m'a dit qu'il y avait une histoire de concours, donc on va l'écouter raconter cette anecdote là.
Thomas, il est arrivé à Rage pour d'abord être dans l'émission sur la culture des un peu numérique. Elle s'appelait Mediatek ou Disque dur, il y a eu les deux noms. Et donc déjà animé par Patrick, un autre créneau sur la piste. Moi, j'étais déjà à la technique. Et en fait, je me rappelle, assez drôle d'ailleurs, on avait fait une sorte de petit concours à l'antenne pour savoir qui allait co-animer avec Patrick. Et donc Thomas est venu pour faire un test à l'en direct. Il y a eu d'autres personnes, des personnes, un ami à moi encore qui s'appelle Alex, qui avait testé aussi pour faire. Bon, c'est Thomas qui a gagné. Alex était pitoyable à l'antenne. Et donc du coup, ils ont commencé à animer cette émission. Et c'est vrai qu'au moment où Patrick a voulu un peu s'étoffer pour Exocet, il a demandé naturellement à Thomas, avec qui il animait déjà une émission. Et Thomas, à l'antenne, il est excellent, quoi. Il est vraiment très fort. Et puis, il travaille beaucoup, il se documente énormément. Je pense que Thomas, c'est le binôme parfait pour Patrick à l'antenne, quoi.
Moi, dans mon souvenir, ce qui s'était passé, c'est que pour Mediatek, justement, il y avait plusieurs chroniqueurs potentiels, plusieurs candidats. Et donc, bah, c'était Thomas qui avait tiré son épingle du jeu, bien évidemment. Et l'autre candidat, que je ne citerai pas du coup, mais je crois que tu le connais, donc l'autre candidat s'est retrouvé à la technique plus tard, quand Mika a lâché la technique de cette émission-là. Mais voilà, par contre, c'était pas pour Exocet.
C'était pour donc.
C'était pour cette émission Disque Dur Médiathèque, qui était plutôt consacrée aux nouvelles technologies, à Internet, aux jeux vidéo. Voilà, mais c'était pas pour Exocet. Pour Exocet, vraiment, Thomas, dès le début, enfin de cette nouvelle mouture en tout cas, est devenu le chroniqueur et il est venu raconter des histoires.
Mais sans doute après, effectivement, enfin, allez, mais ça a dû jouer à une semaine. J'ai dû commencer par Disque Dur ou Médiathèque. Alors moi, je me souviens pas qu'il y ait eu un concours. Peut-être même tu me l'avais pas dit. Du coup, j'étais arrivé serein, j'étais arrivé tranquille.
On a dû
faire la première émission et puis je pense que ça s'est fait après très naturellement, en disant bah du coup vendredi il y a Exocet, il faut que tu sois là à 20h. Enfin, en gros, dans l'idée que j'en ai, c'était un peu ça le concept.
Donc, bah, après,
mais puis ça force d'échanger
concours,
aussi.
Enfin, c'est le mot très connoté, quoi. Mais c'était plutôt un essai, quoi, tout simplement. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient participer à cette émission-là. On a fait des essais et puis Thomas était le meilleur. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement.
Alors, vous aviez des rôles assez définis dans l'émission. Donc Mika s'occupait plus de la technique et était un petit peu en sniper pour faire des vannes. Comment vous répartissiez le travail tous les deux?
Moi, j'étais un peu le chef d'orchestre du truc, et puis ensuite on se partageait les histoires, tout simplement, quoi, voilà.
Pareil, hein. Enfin, en fait, moi, je trouve que notre aventure radiophonique s'est faite très naturellement. Patrick avait une expérience que je n'avais pas. Je mets Mika à part parce qu'il avait un rôle qui était effectivement du côté technique et il intervenait, mais dans l'animation, c'était pas réellement son rôle. Je dirais que ouais, ça s'est fait assez naturellement parce qu'effectivement, Patrick avait beaucoup plus l'habitude de la radio que moi. Une capacité, je sais pas comment la qualifier, mais une capacité d'habillage, d'animation que je n'ai pas, que je souhaitais pas particulièrement avoir. Donc il y avait pas une bataille d'ego non plus pour savoir qui devait animer, parler plus, etc. Et en fait, on réfléchissait tout simplement au sujet en se disant, ben là, cette semaine, moi, j'ai deux ou trois histoires. Moi, j'en ai deux, trois. Ok, c'est quoi tes histoires? Il avait le plan de mes histoires, il connaissait le sien. Et il faisait le lien tout naturellement entre ces histoires. Et on essayait de faire quelque chose d'intelligent où c'était une histoire sur deux, ce qui se ressent d'ailleurs hein, dans le programme quand vous l'écoutez. Patrick fait une histoire, je fais une seconde et ainsi de suite. Généralement, voilà, c'est une sur deux.
Et vous connaissiez chacun les histoires, l'histoire de l'autre ou
Oui, avant, ben, on va parler de ça.
On connaissait le sujet, mais pas forcément le fond de l'histoire.
Ouais, oui, on se laissait quand même la surprise pour que, bah, justement, sur place, il y ait des réactions spontanées et authentiques, tu vois. Mais par rapport au truc de combat d'ego, justement, ça n'avait pas lieu d'être parce que l'émission a commencé sans Thomas, tout simplement.
Oui,
si on avait co-créé ce truc-là, peut-être qu'on se serait dit, bon, alors, moi, je veux parler tant de temps, moi, je veux faire ci. Là, l'émission existait déjà et Thomas est venu rejoindre l'équipe, donc il a trouvé sa place assez naturellement. Et typiquement, comment ça se passait? En fait, l'émission démarrait, donc je présentais l'émission, je rappelais le concept. S'il y avait un thème, parfois il y en avait, j'expliquais de quel thème on allait parler. Je racontais une histoire, Thomas enchaînait avec une autre histoire, puis il y avait les pauses musicales aussi, il y en avait parfois deux, trois, jusqu'à 4, ça dépendait de la longueur des histoires en question, et on concluait l'émission par une sélection d'infos insolites, etc. Voilà. Et là, bah, du coup, c'était un peu la récréation parce que tout le monde rebondissait, faisait des vannes, voilà, Mika en particulier. Et voilà, voilà comment ça se passait.
Vous les trouviez comment d'ailleurs ces
vannes?
L'actualité, parce que j'avais un rapport avec l'actualité pour le coup.
J'allais sur tous les sites d'infos possibles et je collectais toutes celles qui me semblaient surprenantes, étonnantes, improbables.
Beaucoup d'infos liées à des faits divers, forcément, parce que c'est là où il y a le plus de contenu pour faire de l'insolite. Et à l'époque, quand même, je pense aussi pas mal de sources puisées sur des sites américains ou anglais, ou des forums déjà qui existaient à l'époque, du type, comme on peut avoir aujourd'hui, Reddit ou des choses comme ça. Mais voilà, on allait chercher, puis de temps en temps, bah, c'était en allant chez sa grand-mère, en ouvrant la Provence, et dans les faits divers, il y avait l'anecdote bizarre. Le mec qui s'est tué en voulant échapper à une dame blanche qu'il avait vue au coin de la rue et qui s'est mangé un poteau, voilà. Bon, ben, ça, tu trouves ça en allant chez ta grand-mère qui abonnait à la Provence, tu vois.
Et donc, il n'y avait que vous deux qui racontiez des histoires. Ouais. Moi, quand je suis allé voir Mika, je lui ai demandé s'il avait jamais eu envie d'en raconter. Parce que... Et donc, on va écouter ce qu'il avait à dire sur son rôle à lui dans l'émission.
Bah, si, en fait, j'ai eu à des moments envie de raconter des histoires, surtout quand c'était des histoires qui me parlaient à moi personnellement. Quand on a parlé, par exemple, des expériences de conscience à avant la mort, après la mort, les morts imminentes, ces passages-là, moi, c'est vrai que ça me faisait écho un peu avec ma vie, et puis j'avais envie de raconter. Mais j'ai jamais eu cette envie qu'avait Patrick et qu'avait Thomas, vraiment, d'aller prendre une histoire qui existe et la raconter et la faire découvrir. Moi, j'avais plutôt envie de faire découvrir mon histoire à moi. Et je pense que c'était la différence qu'on avait un peu tous les trois, c'est que moi, mes interactions et mes interventions dans l'émission, c'était toujours du très réel, en fait. Je faisais des blagues sur ce qu'on faisait, où je parlais de moi, on me souhaitait mon anniversaire. Enfin, tu vois, c'était toujours un peu ancré dans la réalité, en fait. Et moi, j'étais un peu le côté technique et le côté un peu vers la réalité. Et je pense tant mieux d'ailleurs que j'ai jamais raconté d'histoire, parce que d'une, je la raconte moins bien qu'eux, ça c'est indéniable, et de deux, je pense que j'aurais raconté des histoires qui parlent plus de la réalité que ce qu'ils ont fait, quoi. Moi, je peux dire que j'ai presque eu le meilleur rôle dans l'émission. C'est que moi, j'étais acteur d'une émission où j'étais le premier spectateur. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu la chance de participer à un truc où je découvrais des histoires en direct, tout seul, dans ma petite cabine, tu vois. J'étais dans ma cabine, eux, ils étaient dans le studio. On me racontait des histoires, j'avais le droit d'interagir, j'avais le droit de faire des blagues. Tu sais, c'est comme si t'étais derrière ton poste de radio, sauf que tu parles avec les animateurs. Et ça, c'est un truc de fou. Moi, j'ai vraiment... C'est comme si j'étais un auditeur, que j'étais tranquillement... Juste, il fallait que les micros soient bien allumés, que la musique soit bien et tout, tu vois. Mais sinon, si mon boulot de technicien était bien fait, je pouvais profiter pleinement de l'expérience. Et ça, c'est un truc de fou, parce que quand il repense, c'est très rare de pouvoir vivre des trucs comme ça, de se faire raconter des histoires toutes les semaines. Et évidemment que maintenant, j'écoute les histoires insolites, étranges, d'une autre façon, quoi.
Donc voilà, Mika nous a parlé de son rôle. J'aimerais qu'on vienne sur l'émission en elle-même maintenant. Donc cette émission, vous avez raconté beaucoup d'histoires. J'imagine qu'il y a des séquences qui ont dû vous marquer plus que d'autres. Mika, quand je suis allé le voir, lui m'a parlé d'une émission en particulier qui l'avait vraiment marqué. C'était celle où vous parliez des sons étranges, et notamment avec les radios de nombre. Ça l'avait vraiment marqué, ces sons très très étranges. Vous, c'est quoi les mystères qui vous ont le plus parlé dans l'émission, dont vous vous souvenez le plus?
Moi, c'est celle-là aussi, hein. En fait, c'est vraiment l'émission dont on nous a le plus parlé. Et encore aujourd'hui, on parle de cette émission-là, donc qui était consacrée aux sons, aux enregistrements les plus étranges, les plus effrayants, les plus mystérieux. Et évidemment, c'est super radiophonique, hein. Et donc, il me semble que pour cette émission-là, en plus, il y avait eu des problèmes techniques, genre la machine qu'utilisait Mika ne fonctionnait plus, je crois qu'il y avait des lumières qui s'étaient coupées, enfin, il y avait des tas de trucs bizarres en plus, qui faisaient que dans le studio, il y avait une atmosphère spéciale, et en plus, comme il y a une des histoires qui parlait des radios de nombre, elle était particulièrement frappante pour les auditeurs, puisqu'ils étaient confrontés à un outil qui était justement mis en scène dans l'histoire, quoi. Puisque les radios de nombre, pour le faire très vite, c'est des radios à ondes courtes, en fait, des émissions donc qui sont diffusées sur des radios à ondes courtes et qui sont constituées la plupart du temps d'une suite de mots ou de chiffres sans signification apparente. mais qui s'apparentent davantage à des messages codés, etc. Et donc, des émissions de ce type-là, il en existe depuis près d'un siècle, et elles ont été récupérées largement par la pop culture, notamment par Lost, par exemple. Dans la série Lost, on peut entendre une radio de nombres, voilà une succession de chiffres comme ça, et c'est des enregistrements qui sont très souvent flippants, c'est des voix inquiétantes, désincarnées, etc. Et donc, du coup, les gens qui écoutaient la radio se retrouvaient, en fait, dans la position où éventuellement ils pouvaient tomber sur une radio de nombre en mettant les radios en ondes courtes plutôt que la FM. Et donc voilà, cette histoire-là et cette émission-là en particulier a pas mal marqué les gens à l'époque.
Ouais. Nous aussi, on a fait une spéciale terreur sonore un petit peu dans le même esprit. Ouais. Et elle a énormément marqué les auditeurs. Ouais. Quand on les avait rencontrés en vrai, ils nous ont dit que celle-là les avait vraiment fait ultra flipper, quoi. Donc vous, c'était pareil. Ouais. Ouais.
Alors en plus, moi, pour replacer un peu le contexte, parce que vous le connaissez pas, et ceux qui vous écoutent non plus, et d'ailleurs nos auditeurs pas vraiment non plus, faut se dire quand même qu'on était effectivement dans un studio de radio, un très beau studio de radio, mais quand on faisait l'émission, c'était surtout les soirs d'hiver. Ça a commencé à 20h, ça durait jusqu'à 22h, parfois plus, et on était, pareil, on était plusieurs, mais on était finalement que trois, seuls dans une radio entièrement sombre, juste avec un studio éclairé, perdu dans une zone artisanale où, quand tu sors, t'es sur un parking où si tu croises quelqu'un, c'est quelqu'un que t'as pas envie de croiser, en fait. Donc, non, mais voilà, on était quand même dans un contexte déjà particulier et quand on se faisait des émissions comme ça un peu flippantes, on avait vraiment l'impression d'être dans un monde post-apocalyptique, seul au monde, on est trois dans un studio radio à essayer de capter une âme vivante à l'autre bout du micro. Mais je comprends que c'est marqué les gens. Alors moi, c'est une histoire. Enfin, j'en ai deux qui m'ont beaucoup plu, l'une plus que l'autre. Alors, il y en a une qui m'a beaucoup plu. C'est sur le manuscrit de Voynich. Alors, je peux pas l'expliquer, mais cette thématique, ce bouquin me fascine depuis toujours. Je le trouve tellement, tellement curieux que j'ai beaucoup aimé ce sujet-là. Et le second est...
Tu peux nous le...
Il faut que je fasse appel à ma mémoire, hein, mais c'est une œuvre qui est c'est un livre, un recueil qui date de plusieurs siècles en arrière, qui contient des écrits qui sont, à ma connaissance à ce jour, ça fait longtemps que je vais pas rechercher, mais qui ont en tout cas qui restent indéchiffrés et indéchiffrables, et qui possèdent des illustrations très particulières, notamment par exemple sur les accouchements, sur des actes chirurgicaux assez pointus, sur la façon de cultiver certaines plantes ou de faire de l'élevage, enfin des technologies entre guillemets assez pointues. Et quand on date ce manuscrit, puisque c'est son nom, hein, c'est le manuscrit de Voynich, il a une datation carbone 14 qui le fait remonter à une époque où ça semble improbable qu'on ait une telle maîtrise. Et comme on n'arrive pas à déchiffrer le contenu et ce qui est écrit dedans, ça rajoute une part à ce mystère-là. Donc ça, c'est un sujet qui m'avait beaucoup plu. Et l'autre était beaucoup plus cartésien et rationnel, mais j'ai trouvé ça fascinant. Tu me corrigeras si je me trompe, mais c'était sur ce qu'on appelle, je crois, la douve du foie, qui va dans le foie des brebis et des moutons. Ouais. Et qui arrive à faire un cycle de vie absolument hallucinant en parasitant les fourmis, en les rendant zombies pour qu'elles meurent et qu'elles se fassent manger par les oiseaux, pour après se reproduire dans l'estomac de l'oiseau, quasiment forcer l'oiseau à déféquer à un endroit précis pour que la brebis derrière mange cette fiente et tombe malade et pouvoir coloniser. Enfin, c'est un truc absolument hallucinant. Et cette histoire-là m'avait juste... Alors là, je pense que c'est le côté... la nature, ce qu'elle est capable d'engendrer, de créer, qui est juste hallucinant. Parce que quand on connaît tout le parcours, je vous invite à écouter cette émission ou à vous renseigner. C'est juste hallucinant. On a l'impression que c'est téléguidé depuis une force extérieure, alors qu'on parle là
d'un
tout petit truc. Enfin, on parle d'être unicellulaire qui se balade et qui arrive à faire des choses. Et en fonction du corps dans lequel elles sont, soit provoquer effectivement l'envie de déféquer ou de posséder le cerveau, d'habiter la fin. C'est juste hallucinant.
Oui, le cycle de la douve du foie, moi, c'est une histoire que j'avais découverte dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Et par la suite, donc, j'avais fait un article sur le blog Axolot qui parlait d'un certain nombre de parasites de ce type-là et de cycles parasitaires, au moins aussi incroyables, si ce n'est plus parfois. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez dingue, parce qu'on se demande comment des créatures aussi rudimentaires peuvent avoir des comportements aussi complexes. On se demande vraiment s'il n'y a pas une espèce d'intelligence supérieure qui les guide. Oui. Et effectivement, c'était cool, ça.
Alors, vous, donc, là, on a fait les souvenirs. Est-ce que vous aviez conscience, à l'époque, de l'engouement qui commençait à se créer autour de l'émission? Parce qu'aujourd'hui, Exocet, tu en parlais, on t'en parle encore aujourd'hui, Patrick. Toi, on te ressort des vieilles émissions. Ouais. Elle est devenue un peu culte pour tous ceux qui sont amateurs d'étranges. Vous aviez conscience, au moment où vous l'enregistriez, qu'il y avait ça qui se créait?
Alors, moi je pense qu'il y a... Alors peut-être que c'est une critique sévère hein, de ce qu'on pouvait faire à l'époque, mais je pense qu'il y a plus d'engouement autour d'Exocet aujourd'hui qu'Axolot existe et ramène un audimat qu'on n'avait pas à l'époque sur les émissions d'Exocet que l'inverse. À mon avis, bon, on n'a jamais eu de chiffres médiamétrie. On sait qu'il y avait des gens quand même qui nous écoutaient, qui étaient fans, qui nous envoyaient des messages. On en a même croisé à la dernière qui sont venus nous remercier, donc on sait qu'on était écoutés. Après, il faut être réaliste aussi, on était diffusé sur une radio à l'époque locale, aujourd'hui nationale, mais qui est quand même pas... Enfin, on n'est pas sur Énergie ou RTL, hein, enfin voilà, faut pas se leurrer. Donc à l'époque, on émettait à peu près correctement jusqu'à Montfavet, pour ceux qui connaissent Avignon, donc on va dire à 30 km autour d'Avignon, un petit peu sur Nîmes sur la fin, et je pense qu'on avait quand même un audimat relativement confidentiel. Qui devait se chiffrer sans doute en centaines, peut-être un millier, mais sûrement guère plus. Et je pense qu'il y a plus de gens qui ont écouté Exocet en podcast, maintenant qu'Axolot existe et que ben, Patrick a une réputation.
Même avant, d'ailleurs. Même avant Axolot, le podcast d'Exocet était très écouté. Quoi.
Voilà, et après, il y a peut-être... En tout cas, je pense que depuis qu'il est sur Internet, il a une vie... n'avait pas quand il était diffusé en termes d'audimat pur, qu'il n'avait pas quand il existait en direct diffusé sur Rage.
C'est ce que Mika m'avait dit en fait, que déjà sur la fin quand vous étiez à Rage, c'était déjà disponible en ligne et que lui voyait les stats et il voyait d'où c'était téléchargé. Il voyait que vous aviez des auditeurs au Canada, dans pas mal de pays en fait.
C'était fou,
et donc vous étiez écouté, mais largement au-delà des frontières d'Avignon. Quoi.
Ben, pour reprendre ce que disait Thomas, donc on va dire que l'émission avait une notoriété locale. Puisque donc elle était diffusée sur Avignon, sur le Grand Avignon, sur l'agglomération, donc il y a plusieurs villes autour d'Avignon, mais effectivement, ça devait toucher quelques milliers de personnes. Ensuite, elle était aussi diffusée à Nîmes, donc ça touchait un autre bassin de population. Donc voilà, on va dire que l'audience radio d'Exocet, ça devait se chiffrer en quelques milliers de personnes, ce qui était déjà pas mal, pour nous c'était fou, pour une émission d'une radio locale. Et ensuite, quand on a commencé à mettre des podcasts, des émissions de Rage en ligne, là on a pu avoir des chiffres, et effectivement, on a réalisé que, bon déjà, c'était l'émission qui était la plus écoutée de la radio, puisqu'on avait des chiffres.
Quand même.
Et ensuite, effectivement, il y avait des téléchargements de la France entière et de pays francophones. Donc là on s'est dit, c'est quand même fou, l'audience de cette émission. Et puis quand on a arrêté et que j'ai ouvert moi le blog Axolot, j'ai tout de suite été suivi par les gens qui écoutaient Exocet. Donc il y avait un public, quoi. Il y avait un public qui est resté fidèle très souvent. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent, ah ben voilà, j'écoutais déjà à l'époque d'Exocet. Mais effectivement, c'est clair que c'est la mise en ligne qui a déclenché le truc. Et aujourd'hui, depuis Axolot, il y a des gens qui la redécouvrent. Et c'est ce qui fait que parfois, j'ai des échanges un peu surréalistes avec des auditeurs qui m'en parlent, encore une fois, comme si c'était la semaine dernière que ça s'était enregistré, alors que c'est vraiment une ancienne vie et que je n'assume plus que la moitié de ce qu'on a pu dire à l'époque. Et d'ailleurs, je ne me souviens même pas de la plupart des trucs, parce que j'évite de réécouter. Et donc, parfois... J'hésite à effacer ces archives parce que, enfin voilà, vraiment quand je les écoute, enfin si, évidemment si on refaisait ça aujourd'hui, ce serait plus du tout la même chose. J'hésite à les effacer parce que je sais très bien que si je le faisais, dans la minute, je recevrais des messages de gens qui disent mais qu'est-ce qui se passe, machin. Et je reçois encore régulièrement des messages de gens qui me demandent s'il n'y a pas d'autres émissions parce qu'ils ont calculé que, étant donné qu'elle a duré 3 ans, il devrait y avoir beaucoup plus d'archives. Et donc j'explique qu'il y a vraiment tout ce qui est la vérité, il y a tout ce que j'avais pu récupérer à l'époque. Et je suis encore très surpris aujourd'hui du succès de cette émission plus de 10 ans après. D'autant que voilà, les histoires insolites racontées à la fin, bah, elles sont datées. Donc c'est vraiment très vieux, même toutes les références dont on peut parler. Donc voilà, c'est quelque chose qui me surprend toujours.
Ouais, j'ai fait partie de ça, genre. Parce que moi je connais très bien Mimi qui avait fait donc une émission dans Inspiré de Ferrel avec nous, je crois. Et dans le Bureau des Mystères, on avait fait une émission, on parlait de l'homme de Somerton d'ailleurs avec elle. Elle était venue raconter l'histoire. Et je sais que vous connaissez bien avec Mimi. Et j'étais en train de parler justement d'Exocet que j'écoutais. Elle m'a dit, tiens, j'ai Patrick sur Messenger. Enfin, je lui fais, tiens, demande-lui pour où elles sont les autres émissions d'Exocet. Donc je fais partie de ça.
En fait, il y a des émissions qu'on a classées secret défense qui ne sortiront jamais.
Qui sont dans les archives du FBI. Voilà, on a été un peu embêtés.
Oui, il va falloir qu'on saisisse le FBI pour les retrouver.
Sujet trop sensible.
C'est vrai que ça fait bizarre parce que en écoutant les émissions aujourd'hui, on pourrait penser que beaucoup ont été enregistrés la semaine dernière parce qu'il y a des sujets comme ça qui sont qui reviennent, qui sont intemporels.
Ouais.
Et c'est vrai que les actualités, en principe, ont tendance à nous ramener à l'époque quand vous faisiez des blagues, par exemple, ah oui, j'ai son MSN. Des choses comme ça.
Ah oui.
Et voilà, tout de suite, ça permet de dater un petit peu le.
Les plus jeunes et MSN, à mon avis, ça leur parle absolument pas.
Ah, c'est clair.
Du coup, la vanne, elle doit tomber un peu à l'eau.
Carrément.
Ou sauf pour les gens comme nous qui avaient encore MSN.
Oui.
Mais bon, pour ceux qui sont nés en 2000, c'est plus compliqué.
Ben, MSN, c'est le WhatsApp de l'époque pour ceux qui veulent raccrocher les wagons.
Alors, Exocet, ça s'est arrêté donc il y a déjà maintenant un tout petit peu plus de 10 ans. Fin 2008. Qu'est-ce qui a fait que l'émission s'est arrêtée? Vous en parliez un petit peu tout à l'heure tous les deux. C'était qu'il y avait déjà moins d'histoires, mais est-ce que c'était la seule raison?
Moi, je dirais qu'il y a deux trucs. La première raison, effectivement, c'est qu'on s'était dit que ce serait très compliqué de faire une saison de plus. Puis la deuxième raison, c'est qu'on a quitté la radio pour diverses raisons. Mais voilà, on
déjà,
est arrivé
ça
à la
plus
fin
du
de...
tout avec Patrick, on s'entendait plus.
Ouais, on est arrivé à la fin d'une aventure. Quoi.
Non, on s'est toujours très bien entendu. On a même travaillé, si vous voulez plein d'anecdotes, on a même travaillé ensemble à une époque.
Ah, oui.
J'avais une entreprise, il était graphiste, on a travaillé ensemble après pendant de nombreuses années.
Mm-hmm.
Alors, ça s'est arrêté parce que c'était raisonnable de s'arrêter. C'est franchement la première vraie raison, c'est que c'était raisonnable de s'arrêter. On avait fait le tour, on sentait bien qu'on n'avait plus le même entrain, la même dynamique, qu'on n'arrivait plus à faire passer avec la même passion les sujets qu'on abordait, qu'on avait plus de mal à en trouver, qu'on voulait pas, on préférait partir sur une belle note que faire la saison de trop. Voilà, c'est concrètement vraiment la raison principale.
C'est vraiment
je pense
ça,
que c'était ça.
Ouais.
Ensuite, effectivement, il y a eu une autre vie à la radio qui a changé, la direction des programmes qui a changé, la volonté de Rage de se professionnaliser et donc de mettre des émissions qui faisaient le charme de la radio associative un peu de côté, voilà, si on veut vraiment être transparent.
Oui.
Et nous, on n'avait pas envie de faire dans le mainstream. Voilà, pur et dur, donc ça ne nous intéressait pas de poursuivre là-dessus. Je ne pense pas qu'on nous ait beaucoup retenu non plus, d'ailleurs. Je pense que c'est les deux raisons essentielles. La première étant vraiment l'inspiration et puis la volonté de partir sur une belle note finale et pas rater la dernière saison et devoir refaire des sujets déjà abordés ou des choses comme ça.
C'est ça.
Est-ce que vous avez, vous avez gardé le contact déjà, puisque tu disais que vous avez travaillé ensemble après l'émission, avec Mika, vous avez aussi toujours gardé le contact tous les trois?
Alors le truc, c'est que Mika, il est parti vivre à Paris quand il a quitté la radio, donc ça devait être peut-être en 2009 ou 2010. Donc forcément, c'était plus compliqué de se voir, mais on est toujours resté en contact par Internet, et puis quand on peut se voir à Paris, on le fait, quoi. C'est toujours un bonheur de le voir. Non, vraiment, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours gardé un lien d'affection avec Mika très fort, et qui, a priori, durera, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, on a jamais coupé le lien. Avec Thomas, du coup, on a travaillé ensemble, et puis après, quand on a cessé de travailler ensemble, chacun a fait sa vie de son côté, donc on s'est un peu moins vus, mais bon... On va être amené à se revoir régulièrement, il n'y a pas de raison.
Non, mais pour moi, les liens... Alors, avec Mickaël, moins, effectivement, parce qu'il est parti sur Paris, mais effectivement, aujourd'hui, comme disait Patrick, avec Internet, Alors c'est pas par Facebook, mais j'ai régulièrement de ses nouvelles parce qu'il est sur un réseau professionnel bien connu et qu'on est en contact tous les deux. Donc je vois ce qu'il fait, je suis entre guillemets son actualité. Il va réagir sur certaines de mes publications et inversement. Donc on a ce suivi un peu distant. J'ai toujours des nouvelles par Patrick, quand même. Voilà. Donc forcément, j'ai un lien moins fort. Je le regrette un peu parce que c'est vrai que de temps en temps, alors je suis moins globetrotter que Paris, que Patrick. Donc je vais moins souvent à Paris, même si maintenant professionnellement, je suis amené à y aller très souvent. Mais ouais, avec Mika, un tout petit peu moins. Je le regrette. C'est quelque chose qui pourrait se corriger en fait assez facilement parce qu'il y a en tout cas, il y a pas eu de clash. On s'est pas séparés en disant qu'on voulait plus se voir et qu'on s'entendait plus. Au contraire, donc vraiment, c'est juste une question plus d'opportunité. Et puis avec Patrick, effectivement, c'est plus simple parce que il est sur le secteur. Enfin, quand il est sur le secteur, voilà. Non, il faut trouver une place. Voilà,
il n'est pas à Tokyo.
Il faut trouver une place dans le planning. Mais on a toujours. Enfin, c'est des détails qui peuvent paraître très bêtes, mais moi j'ai changé régulièrement de numéro de téléphone. Il a toujours eu mon nouveau numéro de téléphone. Voilà, par exemple. Enfin, c'est donc. Je dis pas qu'on se voit toutes les semaines, mais
faut que je précise un truc. Oui. Avec Thomas, parce que. Aujourd'hui, je pense que avec tous les moyens de communication qu'on a, c'est quasiment impossible en fait de perdre de vue quelqu'un oui. Si on n'a pas envie de le perdre de vue. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant de voir à quel point ça peut bouleverser les relations humaines, parce qu'il y a une époque où, par exemple, quand on faisait connaissance avec quelqu'un en vacances et que les vacances se terminaient, on savait qu'on verrait probablement plus cette personne, c'était fini. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a un lien permanent, continu, avec tous les gens avec qui on veut bien rester en contact. Mais il se trouve que Thomas n'est pas sur Facebook. Voilà.
Oh là là.
Donc ouais. Ça déjà c'est terrible à dire, mais quand t'es en contact Facebook avec les gens, ils sont toujours là potentiellement en quelques minutes. Tu vois, si t'as envie de dire quelque chose à quelqu'un, tu lui dis et puis il te répondra dans les minutes qui suivent, quoi. Donc Thomas, il est pas sur Facebook.
J'ai un smartphone quand même.
Ouais, ouais, non, mais, d'accord, mais enfin les gens ne communiquent plus par le téléphone. J'en dis Thomas, c'est fini tout ça.
Ben moi oui.
À la limite, il est sur Twitter. Donc voilà, ça c'est quand même la seule personne avec qui je communique par la messagerie privée de Twitter. C'est ouais. La seule personne avec qui je fais ça. Donc voilà.
Ben, c'est vrai. Non, mais après, effectivement, je ne suis pas sur Facebook. C'est un choix personnel. Je ne suis pas du tout réfractaire aux technologies. Alors, si vous voulez tous les détails, je suis même consultant informatique. Donc, du coup, je suis quand même plutôt au fait des nouvelles technologies. C'est mon métier, c'est mon quotidien. Et Facebook, c'est une vraie volonté personnelle. Donc, c'est vrai que ça rajoute au fait que, comme dit Patrick, on a souhaité rester en contact. Et c'est pour ça que mon exemple de « je lui ai toujours donné mon nouveau numéro » et inversement, etc., est très parlant, parce qu'effectivement, ça aurait pu être un contact qui se faisait via Facebook, en disant « bah tiens, j'ai essayé de t'appeler hier parce que je voulais prendre des nouvelles, j'y arrive plus, ah, bah, j'ai changé de numéro ». Non, là, c'est vraiment un acte volontaire, et on se voit régulièrement, c'est exagéré, mais on a des petites phases, on a besoin de se retrouver, et là, bah, par exemple, c'est une occasion, et ça nous a amené à se voir il y a 3 semaines de ça, manger ensemble... Et là, en fait, si on prend les 2 derniers mois, on s'est vu plus que sur les 2 dernières années. Mais...
Bah, d'ailleurs, c'est le fait qu'on ait mangé ensemble récemment qui m'a donné l'idée de faire ça.
Parce que moi, je t'avais envoyé un message il y a très longtemps, je crois que c'était il y a au moins 6 mois.
Alors, tu m'avais envoyé un message et puis on m'avait même proposé de participer à l'émission, donc des personnes qui m'avaient fait passer le message, etc. Et puis... En fait, je me disais que ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de faire voilà, justement cette réunion, quoi, tant qu'à faire. Et puis, comme donc on a mangé ensemble avec Thomas, etc., je me suis dit, bah, tiens, voilà, ça pourrait être chouette de profiter de se retrouver un petit peu pour faire ce truc-là, une bonne fois. Mmh. Donc, c'est pour ça que je te l'ai proposé.
Voilà. C'est dommage que tu dis ça, parce qu'on a un autre message de Mika. Oui. En fait, je vous posais à tous les mêmes questions, hein, quasiment. Mika, je lui ai demandé ce qu'il faisait depuis la fin d'Exocet, pardon. Mmh. Donc, toi, tu viens de nous le dire, Axolot, on connaît. Lui, donc, est devenu journaliste reporter dans un groupe de presse économique. Il n'a jamais lâché la radio, et c'est ce qu'il nous a expliqué. Et vous verrez, à la fin, il a un petit message pour vous. On va l'écouter tout de suite.
Moi, j'ai continué à faire de la radio. Après, quand je suis parti de Rage, j'ai continué à avoir une émission musicale quand on est arrivé à Paris. Moi, j'ai une émission à côté qui s'appelle Vision Décalée, qui est sur la musique hip-hop avec une autre team, avec ma team Vision Décalée. Donc on a continué. Donc moi, la radio, c'est quelque chose que j'aime au fond de moi. Ça m'a trop marqué pour que je ne continue pas à en faire et que je ne continuerai pas à en faire. Et c'est vrai qu'au fond de moi, je me dis, si je dois refaire une émission demain, si je dois choisir de refaire une émission demain outre Vision Décalée, bah, ça serait une émission avec Patrick, justement. J'ai envie de parler d'étrange, c'est que vraiment avec Patrick il s'était passé un truc quoi. Patrick et même Thomas je peux dire, il s'est passé un truc, j'ai vraiment aimé ces moments là
forcément. Une nouvelle émission tous les trois, est-ce que ça vous intéresserait, même en événementiel, j'en sais rien.
Voilà, techniquement c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir se retrouver, déjà qu'on a du mal à le faire, ne serait-ce que sur le plan humain. On n'a pas réussi à faire une réunion en 10 ans, donc voilà. Après, dans l'absolu, pourquoi pas, mais logistiquement, c'est délicat.
Alors, moi, la réponse, ça serait carrément oui, parce que comme Mika, la radio, c'est quelque chose qui me manque et que j'aimais faire. Et je sais qu'aujourd'hui, enfin, c'était déjà le cas à l'époque, mais y aurait les moyens, je dirais, techniques de faire de la radio sans être à la radio. J'entends par là sans être dans un studio avec une fréquence en FM, etc.
Tu veux dire les podcasts?
Par exemple, des podcasts, mais j'envisageais même plutôt, tu vois, du podcast en direct, plutôt de la web radio. Enfin, voilà, définir un créneau particulier. La problématique essentielle, parce que la logistique, on peut toujours trouver des solutions. Si tout le monde est passionné et que tout le monde souhaite le faire, c'est des solutions. Les solutions peuvent se trouver. Ça sera plutôt sur la thématique. Trouver un sujet, parce que faire de la radio pour faire de la radio, c'est bien pour soi. Enfin, les gens qui écoutent, ça les intéresse peu de se dire ah, super, il kiffe, il fait de la radio. Mais enfin, nous, ces sujets. Donc, c'est plutôt après l'émission, le contenu, les thématiques abordées qui devront être pertinentes qui, de notre côté, dans notre choix de vie professionnel et personnel propre à chacun, n'empiètent pas trop non plus. Vous imaginez bien que Patrick est aujourd'hui extrêmement occupé. Si on fait une quotidienne, il ne pourra pas être là toutes les quotidiennes. J'ai avec Mika une vie pro qui fait que, pareil, on ne peut pas consacrer, comme je le disais tout à l'heure, hein, on ne peut plus consacrer 5 heures à faire de la recherche. Donc tout ça, c'est des éléments qui seraient à prendre en compte. Et du coup, c'est moi, pour moi, le point le plus bloquant, ça serait plutôt la formule de l'émission plus que l'émission en elle-même. Je pense que tout le monde autour de ce micro aime faire de la radio, aime parler dans un micro, aime le média. Donc, personne n'aurait de difficulté à être convaincu de reprendre un micro. C'est plutôt comment l'amener et comment faire, comment utiliser ce micro qui semble le point bloquant.
Alors, moi déjà, je voudrais juste revenir sur donc le témoignage de Mika, hein, que je trouve très, très touchant évidemment, et je vais même en profiter pour revenir sur un point précis, parce que donc Mika, en dehors de la technique, son rôle dans l'émission, c'était de faire des vannes. C'était même pas son rôle, dans le sens où c'était pas
c'est
écrit.
Naturel. Ouais.
C'était juste comme ça, quoi.
Instinctif.
Et voilà. Et donc ça faisait vraiment partie de l'ADN de l'émission, etc. Et donc un jour. Je suis allé le voir pour lui faire part de réflexions que j'avais eues, de remarques de gens qui écoutaient l'émission, et qui me disaient « Ah, l'émission, c'est super, mais c'est dommage parce que donc Mika, il fait tout le temps des vannes, et du coup, des fois, ça casse un peu l'atmosphère des histoires, etc. » Et donc, comme j'ai eu ce type de retour à plusieurs reprises, je me suis dit « Ben, je vais quand même lui faire remonter ça et lui demander de freiner un peu, peut-être sur les vannes, effectivement, de ne pas en faire tout le temps pour ne pas casser l'ambiance. Bon. » Donc, j'étais allé lui dire ça et je sais que ça l'avait blessé. Je le sens, il ne me l'a jamais dit, hein, mais je l'ai ressenti par la suite, dans les émissions qui ont suivi. Et donc, s'il écoute ce podcast, je tiens à m'en excuser auprès de lui. Parce que, encore aujourd'hui, ça me fait de la peine quand j'y repense. Mais bon, voilà, j'avais fait remonter l'information, et pour moi, sur le moment, c'était pas plus important que ça. Mais ça a quand même changé quelque chose. À partir de ce moment-là, il est moins intervenu dans l'émission, et finalement, avec le recul, il y a vraiment un élément qui s'est transformé. Ça a cassé un truc. Donc voilà, Mika, si tu m'écoutes, Sache que je t'aime et que je suis désolé pour ce moment-là, parce que je suis sûr que tu t'en souviens.
Là, tu te rends pas compte, Mika, mais il est allongé sur un canapé en train de se confier.
Non, je sais qu'à l'époque, ça lui a fait de la peine.
Et j'en profite pour te remercier aussi pour ce message qui est effectivement très touchant.
Et par rapport à la radio, juste pour revenir, Thomas parlait de la radio et du fait qu'il a encore aujourd'hui la passion de la radio, etc. Donc moi, c'est un truc qui m'a jamais quitté. non plus. C'est un média que j'adore et j'ai toujours un manque de la radio. Et à chaque fois que je suis devant un micro, d'ailleurs, il faut que je me retienne pour pas faire l'émission, d'ailleurs, pour pas animer l'émission. Et donc, j'essaie de trouver des substituts par le biais notamment, par exemple, des Nuits Originales, voilà, donc, qui est ce podcast marathon qui a lieu à peu près tous les 3 à 4 mois, qui est animé par Thomas Hercouet. Donc, j'ai diverses occasions. De temps à autre, j'interviens dans l'émission... La méthode scientifique sur France Culture, donc pour faire des chroniques comme ça, machin. Donc, j'ai des substituts, mais ça me manque. J'aimerais bien faire une émission. Par contre, si c'était le cas, je pense que ça n'aurait rien à voir avec Exocet, puisque, bah, du coup, pour tout ce qui a trait aux histoires extraordinaires et aux curiosités, bah, je le fais déjà par ailleurs. Donc, ce serait sans doute autre chose. Et j'y réfléchis, d'ailleurs. Je me demande de quoi je pourrais parler. On avait notamment réfléchi à un concept avec Adrien Méniel, donc voilà, qui est sans doute la personne la plus drôle de l'internet français, et c'est quelque chose auquel je pense parce que j'adore les podcasts, vraiment j'écoute énormément de podcasts, plutôt des podcasts anglophones que francophones, mais plus ça va, plus il y a du contenu de qualité en France. Et bah, je suis assez addict, par exemple, au podcast de type transfert. Donc, par contre, c'est un truc concurrent.
Je pense qu'on peut en parler. Pas tant que ça, puisque du coup, Henri Michel a l'agenda du loisir français, c'est qui est chez Slate aussi.
Ah, d'accord. Okay. C'est cool. donc, juste, je rappelle, hein, ce podcast dans lequel des gens racontent des moments extraordinaires de leur vie, des histoires incroyables. Et donc, c'est quelque chose que, par ailleurs, je fais sur scène par le biais d'un spectacle qui s'appelle La Veillée, donc qui a lieu à Paris 2 à 3 fois par an, et qui repose sur le même principe, hein, donc permettre à des gens de venir raconter des histoires extraordinaires, donc c'est quelque chose moi qui me touche particulièrement et que j'aime beaucoup. Je suis très fan aussi de mon amie Sophie-Marie Laroui, qui a son podcast À bientôt de te revoir, qui est un ovni par la personnalité même de Sophie-Marie. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Il se pourrait que ça se produise sous forme de podcast, mais je ne sais pas encore de quoi je pourrais parler. Mais j'y pense en tout cas.
Merci pour le scoop. Bah écoutez, merci déjà à tous les deux d'être venus dans l'émission. Ça nous a fait vraiment plaisir. En ce qui me concerne, c'était un très beau cadeau de Noël. Si je peux dire ça.
En ce qui me concerne aussi, mais c'est vrai que Mathias me parle de vous depuis tellement longtemps que bah là, ça me fait bizarre de vous voir en vrai, en fait, d'avoir entendu vos voix et de vous voir. Enfin, alors, Patrick, c'est pas pareil, mais
on a pas le physique des voix. Mais d'accord.
Eh bien écoutez, c'est l'heure de se quitter. Le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille. À ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, @BDMlePodcast, sur la page Facebook Charles et Mathias. Vous pouvez nous laisser des avis sur iTunes. On vous fait un petit teaser pour le numéro suivant peut-être ? Est-ce que vous serez là pour le numéro suivant ?
Il y a des chances.
A des
je vais
chances.
Essayer de me libérer, perso.
Moi, moi, j'ai payé le parking. Donc...
Ah. Eh bien, écoutez...
On vous dit à vous, chers auditeurs, à très bientôt pour le prochain numéro du Bureau des Mystères. Et d'ici là, écoutez les archives d'Exocet.